40 longues, longues minutes plus tard, un homme, une femme et deux petits-enfants, un garçon et une fille, passaient devant le restaurant. Le garçonnet tenait son père par la main et bavardait. Hochant la tête et souriant, son père le regardait. C'était Robert Oswald. Le haut-parleur tonitrua.
Le vol Delta 194 en provenance de Newark et à destination d'Atlanta Municipal Airport est arrivé. Les passagers sont attendus au portail numéro 4. Je répète, le vol Delta 194 est arrivé.
La femme de Robert, Vada, selon les notes de Hall, souleva la fillette dans ses bras et accéléra le pas. Il n'y avait pas trace de Marguerite. J'ai pioché dans ma salade et mâché sans rien sentir. Mon cœur battait fort. Je pouvais entendre le rugissement des moteurs et j'ai vu se profiler le nez blanc d'un DC-8 venant se ranger en face de la porte devant laquelle s'agglutinaient les gens venus accueillir leurs proches. Une serveuse m'a tapé sur l'épaule et j'ai failli hurler.
« Pardonnez-moi, monsieur !»
me dit-elle avec un accent du Texas à couper au couteau. « Je voulais juste savoir si vous souhaitiez autre chose. »«
Non, » je lui ai dit. « Tout va bien. »«
Alors c'est parfait. » Les premiers passagers commençaient à traverser le terminal d'un pas rapide. C'étaient tous des hommes prospères, costard-cravate et coupe de cheveux étudiés. Évidemment, les premiers passagers à débarquer étaient toujours ceux de première classe.
« Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une jolie petite part de tarte aux pêches, hey ? Elle est toute fraîche du jour. »«
Non, merci. »«
Sûr, mon mignon ?»
Maintenant, les passagers de la classe touriste arrivaient en masse, tous nantis de bagages à main. J'ai entendu une femme glapir. Était-ce Vada, apercevant son beau-frère ?
« Absolument, »
ai-je confirmé, et j'ai ramassé mon magazine. Elle a saisi l'allusion. Je suis resté assis à ma place, à touiller mon reste de salade jusqu'à obtenir une belle soupe orange, because sauce vinaigrette à la française, tout en regardant ce qui se passait. Voici qu'arrivait un couple avec un bébé, assez grand pour marcher, donc trop âgé pour être June. Les passagers défilaient devant le restaurant, devisant avec les amis ou parents venus les chercher. J'ai vu un jeune homme en uniforme militaire claquer le postérieur de sa petite amie. Elle s'est mise à rire, lui a tapé sur la main, puis s'est dressée sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Pendant 5 minutes environ, le terminal fut presque comble. Puis la foule commença à s'éclaircir. Il n'y avait aucun signe des Oswald. Une certitude sauvage s'empara de moi. Ils n'étaient pas à bord de l'avion. Je n'avais pas seulement voyagé dans le temps, j'avais rebondi dans une sorte d'univers parallèle. Peut-être Carton Jaune était-il là pour empêcher que quelque chose de cet ordre-là arrive. Mais Carton Jaune était mort. Et moi, j'en étais quitte pour ma peine. Pas de Lee Oswald ? Parfait. Pas de mission Kennedy. Il mourrait dans une autre version de l'Amérique, mais pas dans celle-ci. Je pouvais rattraper Sadie, vivre heureux avec elle et avoir beaucoup d'enfants. À peine cette pensée m'eut-elle traversé l'esprit que j'ai aperçu ma cible pour la première fois. Robert et Lee marchaient côte à côte en parlant avec animation. Lee balançait au bout de son bras un bagage, grand attaché-case ou petit cartable, je n'aurais su le dire. Robert portait une valise rose au coin arrondi qui semblait tout droit sortie du placard de Barbie. Vada et Marina suivaient. Vada s'était chargée d'un sac en patchwork et Marina portait l'autre en bandoulière. Étant donné qu'elle portait aussi la petite June, maintenant âgée de 4 mois, elle peinait pour suivre le rythme. Les deux enfants de Robert et Vada l'entouraient, levant les yeux vers elle avec curiosité. Vada appela les deux hommes et ils s'arrêtèrent presque en face du restaurant. Robert sourit et prit le sac de Marina. Lee avait une expression amusée, entendue, peut-être les deux à la fois.
un infime soupçon de sourire esquissait des fossettes au coin de sa bouche. Ses cheveux d'une teinte indéfinissable étaient bien peignés. C'était le parfait Marine dans sa chemise blanche repassée, son pantalon kaki et ses chaussures cirées. Il ne ressemblait pas à un homme arrivant au terme d'un voyage lui ayant fait parcourir la moitié du globe. Ses vêtements n'étaient pas froissés et il n'y avait pas l'ombre d'un poil de barbe sur ses joues. Il avait tout juste 22 ans et paraissait plus jeune. On aurait dit un des élèves de mes cours de littérature américaine. Marina aussi, qui ne serait pas en âge d'acheter une boisson alcoolisée en Amérique avant un mois, faisait très jeune. Mais elle était épuisée, désorientée, et regardait tout avec stupeur. Elle était également très belle, avec sa masse de cheveux bruns relevés et ses yeux bleus en amande à l'expression vaguement mélancolique. June était emmaillotée, bras et jambes compris, dans des langes en tissu. Même son cou était emmitouflé, et quoiqu'elle ne pleurât pas, elle avait le visage rouge et en sueur. Lee prit le bébé. Marina lui sourit avec gratitude, et quand ses lèvres s'entr'ouvrirent, je vis qu'il lui manquait une dent. Les autres étaient jaunies, et elle en avait une presque noire. Le contraste avec sa peau laiteuse et ses yeux somptueux était affligeant. Oswald se pencha vers elle et lui dit quelque chose qui effaça son sourire. Elle le regarda avec méfiance. Il ajouta autre chose en lui plantant l'index dans l'épaule. Je me suis souvenu de l'histoire de Hal et demandé si Oswald disait la même chose à sa femme à ce moment-là.
« Idi, Souka !»«
Avance, chienne !» Mais non, c'était l'excès de l'ange qui l'avait énervé. Il les arracha. D'abord les bras, puis des jambes de la gamine, les jeta à Marina qui les attrapa gauchement. Puis elle regarda autour d'elle pour voir si on les observait. Vada revint sur ses pas et toucha le bras de Lee. Il ne lui prêta aucune attention, continua à dérouler le foulard en coton qui entourait le cou du bébé et le jeta également à Marina. Le foulard tomba à terre. Elle se pencha pour le ramasser sans mot dire. Robert les rejoignit et donna à son frère une bourrade amicale dans l'épaule. Le terminal s'était presque entièrement vidé à présent. Le dernier passager venait de dépasser la famille Oswald et j'ai entendu clairement ce qu'il disait.
« Fiche-lui un peu la paix, elle vient juste de débarquer. Elle sait même pas encore ce que c'est ici.
Regarde-moi cette gosse !» lui dit Lee. Et il éleva June pour que son frère la voie bien.
Avec ce traitement, la petite avait fini par se mettre à pleurer.
« Elle te l'enveloppe comme une foutue momie égyptienne. Parce que c'est comme ça qu'on fait chez elle. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer.
« Staraya baba !»«
Vieille femme !»
Il se tourna vers Marina, le bébé braillant dans les bras. Elle le regardait avec effroi.
« Staraya baba !»
Elle essaya de sourire, comme ceux qui se savent l'objet de la plaisanterie mais ne comprennent pas pourquoi. J'ai pensé furtivement à Lenny dans des sourires des hommes. Puis un petit sourire en biais arrogant illumina le visage d'Oswald. Cela le rendit presque beau. Il embrassa sa femme gentiment, d'abord sur une joue puis sur l'autre.
« États-Unis d'Amérique »
lança-t-il, et il l'embrassa de nouveau.
« États-Unis d'Amérique, Rina, terre de la liberté et pays des couillons !»
Le sourire de son épouse devint radieux. Il se mit à lui parler en russe en lui rendant le bébé. Il passa le bras autour de sa taille tandis qu'elle consolait June. Elle souriait toujours lorsqu'ils quittèrent mon champ de vision, hissant le bébé sur son épaule pour pouvoir donner la main à son époux. Je suis rentré chez moi, si je pouvais qualifier de chez moi ma maison de Mercedes Street, et j'ai tenté de faire un somme. Impossible de pousser les portes du sommeil. Alors je suis resté là, les mains derrière la tête, à écouter les bruits pénibles de la rue et à deviser avec Al Templeton. C'était une chose que je me surprenais très souvent à faire maintenant que j'étais seul. Pour un homme mort, il avait toujours beaucoup à me dire.
J'ai été stupide de venir m'installer à Fort Worth, je lui ai dit. Si je tente de raccorder le magnéto au micro, quelqu'un risque de me voir. Oswald lui-même risque de me voir et ça changerait tout. Il est déjà paranoïaque, tu l'as dit dans tes notes. Il savait que le KGB et le MVD le surveillaient à Minsk et il va soupçonner le FBI et la CIA de le surveiller ici. Et le FBI va effectivement le faire, du moins une partie du temps.
Oui, tu devras te montrer prudent,
convainc Hal.
Ça ne sera pas facile, mais j'ai confiance en toi, copain. C'est bien pour ça que j'ai fait appel à toi.
Je n'ai même pas envie de m'approcher de lui, figure-toi. Rien que de le voir à l'aéroport, ça m'a filé la chair de poule.
Je sais que t'en as pas envie, mais il va falloir que tu le fasses. Croisant quelqu'un qui a passé toute sa vie, ou pas loin, à faire la bouffe. On n'a jamais fait d'omelette sans casser des œufs. Et va surtout pas faire l'erreur de surestimer ce gars-là. C'est pas un super criminel. En plus, il sera distrait par sa vampire de mer le plus souvent. Pendant un certain temps, il sera pas bon à grand-chose, à part gueuler après sa femme et la cogner.
Je pense qu'il l'aime, Hal. Au moins un peu. Peut-être même beaucoup, malgré les cris.
Ouais. Et c'est les gars comme ça qui finissent par bousiller leurs femmes. Regarde Frank Dunning. Toi, copain, occupe-toi de ce que tu as à faire.
Et qu'est-ce que je vais obtenir si je réussis à brancher le micro? Des enregistrements de disputes? Des disputes en russe? Ah ouais, ça va vachement m'aider.
T'as pas besoin de décoder la vie de famille de ce type. C'est sur George Morenchild que tu dois te renseigner. Tu dois t'assurer que Morenchild n'est pas impliqué dans l'attentat contre le général Walker. Une fois que tu sauras ça, la fenêtre d'incertitude se fermera. Et puis, vois le bon côté des choses. Si Oswald te surprend à l'espionner, ses actions futures risquent d'en être modifiées pour le mieux. Il pourrait ne pas s'en prendre à Kennedy, après tout.
Tu crois vraiment ça ?
Non. En fait, j'y crois pas.
Moi non plus. Le passé est tenace. Il veut pas être changé. C'est là que Hal m'a dit
« Ah, copain, v'là que tu cuisines. »
Au gaz, ouais, me suis-je entendu marmonner. Voilà que je cuisine au gaz. J'ai ouvert les yeux. J'avais fini par m'endormir, en fin de compte. La lumière du soir filtrait à travers mes rideaux tirés. Quelque part, non loin de là, sur Davenport Street à Fort Worth, les frères Oswald et leurs épouses respectives devaient être assis autour de la table pour le dîner. Le premier repas de Lee depuis son retour sur sa terre natale. Dehors, dans mon petit bout de Fort Worth à moi, j'entendais des fillettes chanter en sautant à la corde. Leur chanson avait quelque chose de très familier. Je me suis levé, j'ai traversé mon salon plongé dans la pénombre, meublé en tout et pour tout de deux fauteuils de brocante, et écarté l'un des doubles rideaux de quelques petits centimètres. Ces doubles rideaux étaient ce que j'avais installé en premier. Je voulais voir sans être vu. Le 2706 était encore désert avec sa pancarte allouée, clouée à la balustrade du porche branlant. Mais le jardin de devant ne l'était pas. Deux gamines faisaient tournoyer une corde tandis qu'une troisième la sautait à cloche-pied. Bien sûr, ce n'étaient pas les mêmes petites filles que j'avais vues dans Cosset Street à Derry. Celles-ci, vêtues de jeans fanés et rapiécés au lieu de jolis petits shorts tout neufs, étaient maigrelettes et paraissaient sous-alimentées. Mais la chanson était la même, chantée simplement avec l'accent texan. Charlie Chaplin va en France voir les dames comment elles dansent. Un salut pour le capitaine, une révérence pour la reine. Mon papa, il est marin, il conduit un sous-marin. La fillette qui sautait se prit le pied dans la corde et roula dans la pelouse de chiens-dents du 2703. Les autres gamines lui tombèrent dessus et toutes trois roulèrent dans la poussière. Puis elles bondirent sur leurs pieds et détalèrent à toutes jambes. Je les ai regardées partir en me disant « Moi, je les ai vues, mais elles ne m'ont pas vue. C'est bien, c'est un bon départ. » Mais Hal,
Dis-moi, où est l'arrivée ? Morenchild était la clé de toute l'affaire. Le seul élément susceptible de m'empêcher de tuer Oswald dès qu'il emménagerait en face. George de Morenchild, un géologue pétrolier spéculant sur les concessions pétrolières. Un homme menant une vie de playboy, principalement grâce à l'argent de sa femme. Comme Marina, c'était un exilé russe. Mais contrairement à elle, il venait d'une famille noble. Il était en fait baron de Morenchild. C'était l'homme qui allait devenir le seul ami de Lee Oswald durant les quelques mois qui lui restaient à vivre. L'homme qui suggérerait à Oswald que le monde se porterait beaucoup mieux sans un certain ex-général raciste d'extrême droite. Si Morenchild s'avérait être impliqué dans la tentative d'Oswald d'assassiner Edwin Walker, ma situation en serait grandement compliquée. Dès lors, toutes les théories conspirationnistes saugrenues ne pourraient plus être mises hors jeu. Hal, cependant, croyait sincèrement que tout ce que le géologue russe avait fait, ou ferait, comme je vous l'ai dit, vivre dans le passé est source de confusion, avait été d'aiguillonné à un homme déjà obsédé par la célébrité et mentalement instable. Hal avait écrit dans ses notes « Si Oswald était seul le soir du 10 avril 1963, les chances qu'il y ait eu un autre tireur impliqué dans l'assassinat de Kennedy 7 mois plus tard chutent quasiment à zéro. » Au-dessous, en lettres capitales, il avait ajouté son verdict définitif, suffisant pour liquider ce fils de pute.